Vous êtes sur RTL. Alors. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Bonsoir, c'est Sabine Calégari à votre écoute. Puisque nous sommes en plein débat autour du pass sanitaire, je voulais nous rappeler cette célèbre phrase beaucoup citée en ce moment. La liberté des uns s'arrête. La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Nous sommes nombreux à connaître cette citation, mais qui est son auteur? Il s'agit de John Stuart Mill, philosophe, logicien et économiste britannique, qui fut l'un des esprits les plus influents du 19e siècle. Pourquoi? Parce que Mill était un penseur libéral, précurseur même, en particulier sur la question du féminisme. Alors quand il affirme que l'intérêt du collectif doit primer sur l'intérêt individuel pour qu'une société garde sa cohésion, il n'est pas partisan de l'autoritarisme, mais au contraire du progrès humain, comme Montesquieu, comme Freud. L'évolution pour un être humain ne consiste pas à faire tout ce qu'il veut sans contrainte, dit Freud, mais à trouver un équilibre entre l'aspiration à son propre plaisir et la réunion avec les autres dans la communauté. Ce qui passe par la compréhension de l'autre dans sa différence et parfois dans sa fragilité. Ce qui passe par l'écoute. Et Parlons-nous a à cœur d'y contribuer chaque jour de façon simple et directe. Jusqu'à minuit, l'antenne de RTL est à vous au 09 69 39 10 11. Sarah et Colin vous accueillent au standard et vous guident. Si vous préférez réagir à ce que vous entendez, c'est par SMS au 64 900 code RTL ou sur la page Facebook RTL-Parlons-nous. Marc est avec nous à la réalisation, nous pouvons commencer. Bonsoir Mia.
Bonsoir.
Eh bien Mia, de quoi souhaitez-vous nous parler ce soir?
Moi j'ai un syndrome de Diogène et moi je voudrais savoir comment on en sort.
Ah, Mia, si vous permettez, on va peut-être prendre un petit instant pour expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que c'est que le syndrome de Diogène. Voilà, donc Diogène, c'est du nom d'un philosophe grec de l'Antiquité. Diogène était un philosophe dit cynique qui prônait le dénuement et qui vivait, alors selon les versions, dans un tonneau ou dans une jarre. Et on attribue à Diogène des phrases assez cinglantes telles que le fameux « ôte-toi de mon soleil » qu'il a adressé à Alexandre le Grand. Voilà, pour ce qui est du syndrome de Diogène, donc en tant que symptôme, donc c'est un concept de psychiatrie américaine des années 70 qui repère que dans le comportement de certaines personnes, la tendance à des conditions insalubres ou pas toujours et, mais parfois, ou à l'accumulation d'objets. Donc voilà au plus général, mais vous allez pouvoir nous dire, Mia, comment ça se traduit pour vous particulièrement.
Moi, j'ai ça. Je vis dans un bordel monstre.
Oui. Ça s'est
déjà premièrement beaucoup aggravé ces derniers temps. Et puis, c'est surtout que moi, je voudrais en sortir, mais... Vous voyez, chaque fois que je recommence à ranger, à tout ça, je retombe tout le temps sur je vois en rangeant que j'avais déjà commencé. En fait, c'est parce que je me décourage. Pour ça, je voudrais qu'on m'explique comment en sortir, quoi.
Ça fait combien de temps que vous souffrez de ça?
Moi, je pense que j'ai toujours eu, mais bon, là, c'est... J'ai toujours eu tendance à aimer garder les choses, tout ça.
Ça, c'était dès votre enfance, dès votre adolescence, aussi longtemps que vous remontiez, vous vous souvenez de ça?
De toute façon, chez moi, il n'était pas question de... Quand j'étais avec mes parents, il n'était pas question de faire à mon idée. Donc,
Donc là,
non,
vous
depuis
rangiez.
Que je suis chez moi. Oui. Je suis chez moi.
D'accord. Et vous vivez seule?
Non, je suis mariée.
Oui.
Bon, mais enfin, je vis seule quand même. Si on peut dire, étant donné que nous sommes exploitants agricoles et on est dans une ferme isolée et on n'a pas d'enfants.
Oui.
Donc, on est en difficulté depuis de nombreuses années, donc on n'a pratiquement pas de rapports sociaux, quoi.
Et entre vous, ça se passe bien ou chacun vit dans un côté de la maison?
Avec mon mari?
Oui.
J'en ai marre qu'on me ramène tout le temps mon mari. Moi, je vais au CMP depuis plusieurs années. Alors là, me plaindre de mon mari, là, ça y va. Mais m'aider sur Diogène, là, je vois pas bien la réponse, quoi. Non.
Ma question, Mia, n'était pas sur votre couple, c'était de savoir si à l'intérieur de votre maison, vous aviez un espace propre ou si c'était un lieu que vous partagez avec votre mari.
Mon mari, il est éleveur laitier, il travaille 100 heures par semaine, donc il travaille, il dort, voilà. C'est ça la réponse.
Oui, oui.
Et donc, il ne peut pas beaucoup m'aider, d'autant plus que moi, je me suis... là, pourquoi ça s'est beaucoup aggravé? Parce que je me suis effondrée il y a 5 ans. Comment effondrée? Et que donc, j'ai déjà envie de pleurer, et que donc, tout le boulot lui a tombé sur le dos. Donc, voilà, quoi.
Oui.
Et... il a dû faire face à tout, quoi. Le boulot sur la ferme, qui est quand même très conséquent.
Oui, là, c'est... il ne s'agit pas de manquer
un seul jour. Bon, là, moi, je commence à peine à rebosser depuis peut-être 6 mois, un an, peut-être. Mais tout doucement, je ne fais pas autant qu'avant, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Pourquoi vous vous êtes effondrée?
Mon père est mort.
Oui.
Et puis, je me suis... enfin, ma famille... enfin, j'ai eu l'impression de tomber de l'Empire State Building, moi. Parce que ma famille m'a traînée en justice pour que je ne puisse pas acheter la maison de mon père.
Oui.
Et puis alors, je ne sais pas pourquoi tout s'est arrêté pour moi d'un coup, quoi.
Oui. Oui.
J'ai pu ouvrir une lettre, j'ai... je suis restée prostrée dans un coin, quoi.
Oui. Quand vous dites que oui, c'est comme si un building était tombé sur vous, c'était un choc.
Jamais j'aurais cru que mes frères et sœurs m'auraient fait ça, quoi. Vous... pour moi, on traîne pas sa famille en justice, quand même.
Puis vous étiez dans un moment de deuil.
Oui. Mmh. Oui, oui. Puis mon père, ça se passait pas bien. Avec lui depuis longtemps. Et puis j'ai trouvé des choses dans la maison sur mon grand-père qui m'ont beaucoup bousculée.
Oui.
Enfin, tout s'est mélangé, quoi.
C'est ça. Ça fait énormément de choses. Donc le deuil, la violence du procès. Vous avez découvert des choses, bon, que vous ne connaissiez pas manifestement, qu'on ne vous avait pas dites.
Oui, sur mon grand-père qui a été inquiété à la libération. Donc je pense qu'il a eu des accointances avec les nazis. J'ai trouvé un papier qui m'a bouleversée. Et c'est pareil, je ne l'ai pas dit à mes frères et sœurs, je ne sais même pas pourquoi. J'ai pris ça sur moi.
Et avant que vos frères et sœurs ne vous traînent en justice, comme vous dites, vous aviez une entente convenable avec eux?
C'est-à-dire, moi, j'ai quitté la maison. Je sais même plus exactement. Parce que moi, je disais tout le temps 17 ans. Et une fois, mon frère m'a dit ça ne peut pas être 17 ans. T'as eu ton bac, donc je pense qu'effectivement j'ai eu mon bac, donc ça devait être un petit peu après. Mais en fait c'est sur un malentendu, parce que mon père était remarié et ma belle-mère m'a dit que mon père voulait que je me barre, et comme j'étais tellement fâchée contre lui, mais c'est ce que j'ai découvert maintenant à partir de choses fausses, et je l'ai cru et je suis partie comme ça, sans rien demander, sans... Et donc du coup mes frères et sœurs, oui, je suis quand même assez éloignée d'eux.
Oui.
Depuis quand même 40 ans. Mais moi, il me semblait que j'avais fait ce qu'il fallait pour garder quand même du lien. Malgré que je ne vis pas du tout comme eux, je faisais bien attention à aller aux fêtes de famille, à leur faire des cadeaux, même quand je n'avais pas de sous. Enfin, il me semblait que qu'il y a ça aussi. C'est que moi, je n'ai pas du tout le même parcours de vie qu'eux. Alors, ils me trouvent... d'abord, ma soeur devant le notaire, elle a dit ma soeur n'a rien fait de sa vie, ça sera toujours pareil.
Qu'est-ce que c'est dur.
Moi, je ne sais même pas pourquoi elle a dit ça.
Parce que vous dites que vous travaillez avec votre mari à la ferme. Vous avez...
Oui, mais j'ai rencontré tardivement mon mari. Ça fait 20 ans que je connais.
Oui.
Et avant, j'ai fait beaucoup de petits boulots à droite à gauche. Alors que mes frères et sœurs, si vous voulez, ils ont fait des études, ils travaillent, ils sont sérieux, comment.
Vous vous sentiez rejetée par eux?
Disons, c'est vrai qu'avant, je savais qu'ils ne trouvaient pas que c'était bien ce que je faisais. Mais enfin, je pensais qu'ils me respectaient, je suppose. Je pensais même qu'ils m'aimaient bien, et surtout mon frère, ça m'a le plus détruit, c'est mon frère. Parce que moi, j'ai beaucoup d'écart avec ma sœur. Par contre, mon frère, on a très peu d'écart. On était tout petits ensemble. Ça m'a beaucoup choquée qu'il se ligue avec ma sœur contre moi.
Contre
quoi.
Vous, oui. Et votre père, vous lui avez reparlé? Vous dites que vous êtes partie brusquement de chez vous. Comment ça s'est passé
père,
après
je
avec
lui? Je ne suis jamais arrivée à lui reparler, à mon père. Alors...
Et lui...
Non, j'avais dit que je le ferais, puis bon, bah, maintenant il est mort, comment ?
Et lui, donc...
Mais c'est vrai, je ne l'ai pas fait. J'essayais un peu, j'avais envoyé des lettres, ou j'avais essayé de lui demander qu'il me raconte des choses, mais... Tu voyais, moi je me rappelle une fois, il m'avait envoyé une lettre comme quoi... je devais pas lui... Parce qu'avec mon père, il fallait toujours faire semblant. Semblant comme si on était une famille unie. Bon. Donc, il fallait faire que j'écrive à ma belle-mère, oui. que je détestais, comme si c'était ma mère, quoi. Parce que j'avais écrit une lettre à mon père, à lui.
Oui.
Ça, il voulait pas.
Ça, c'était bon, après être... Ça, c'était combien de temps après être partie de la maison ?
C'était après être partie. Bah oui, j'étais adulte depuis bien longtemps.
Et au moment où vous êtes partie, Mia, il a laissé faire ? Il a pas essayé de vous retenir, d'entrer en contact avec vous, de s'expliquer ?
J'étais allée chez ma grand-mère et je sais qu'il a téléphoné à ma grand-mère pour savoir. Et moi, je me rends dire, oui, il sait bien ce qu'il a fait, il sait bien ce qu'il a fait. Mais maintenant, je me rends compte qu'il ne savait pas, en fait, ici. Je pense que sa femme l'a manipulée, quoi. Enfin, c'est même certain. Hein.
Et votre mère, elle était où à ce moment-là ?
Ma mère, elle est morte quand j'étais petite.
Ah. Vous aviez quel âge ?
Quand j'avais 3-4 ans.
Oh là.
Et combien... Vous voyez, il y a ça aussi qui est réapparu, c'est que mon père avait déjà été remarié une première fois.
Oui.
Et cette dame est morte aussi. Et moi, cette femme, on m'a empêchée de l'aimer parce qu'on me disait, on n'a qu'une maman, enfin des conneries comme ça. Parce que moi, comme je dis toujours, ma mère biologique, c'est une fiction. Hein.
Vous ne pouvez avoir aucun souvenir. Je suppose que vous n'avez pas de souvenir d'elle, direct.
J'ai deux, trois souvenirs, mais très peu, quoi.
Oui, oui.
Et en fait, j'ai découvert, toujours dans la succession, des documents qui venaient de ma belle-mère. Je me suis rendu compte qu'on m'avait dit que des conneries sur elle, que des conneries, quoi. Et entre autres, il y a qu'elle écrivait très très bien, parce que moi j'adore écrire, donc on me l'a toujours décrit comme une idiote finie.
Donc là, vous parlez de votre première belle-mère, celle avec à laquelle vous aviez commencé à vous attacher.
Oui, et puis il y a un endroit où l'écrit que mon père, donc jeune marié avec elle, lui présente ses enfants, donc, puisqu'il était veuf.
Oui.
Et où elle dit qu'elle est attirée par moi, et que moi je vais vers elle, et oh, ça m'a bouleversée quand j'ai dit ça.
Ah mais oui.
Je me rends compte que...
Qu'elle vous a aimé.
Voilà, oui, voilà.
Ah oui. Mia, qu'est-ce que vous avez connu de choc dans votre vie ? Parce que ce qui me frappe dans ce que vous commencez à nous confier, c'est que ça doit être très difficile d'avoir pour vous des repères. Vous avez perdu votre mère très jeune, vous avez aimé une femme qui vous a aimé aussi, votre première belle-mère. Et vous aviez quel âge quand elle a disparu ?
Je pense à peu près 15 ans ou 16 ans peut-être.
Elle était malade ou qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, de toute façon, ils sont mortes toutes les... La même maladie que ma maman, ils sont morts du cancer toutes les deux, mais ma mère est morte très jeune.
Oui. Oui.
Enfin, ma mère biologique, je veux dire, quoi.
Donc là, vous avez beaucoup de souvenirs avec votre première belle-mère, entre vos 4 ans et vos 15 ans.
Ben oui, mais vous voyez, on m'avait appris à la détester, donc je suis toujours en train de... Je regrette maintenant, je peux
le dire. Oui, vous sentez coupable ?
Bah, je sais pas, c'était ma manie, mais en tout cas.
C'était très difficile. Enfin, on ne peut pas demander à une petite fille, à une toute jeune fille, d'avoir du discernement si c'est qui d'ailleurs discréditait votre belle-mère.
Comment ?
Qui critiquait votre belle-mère et vous amenait à la détester ?
Eh ben, ma grand-mère et ma sœur aînée, parce que ma sœur elle est beaucoup plus âgée que moi. Et elle vivait pas avec nous, elle a pas voulu vivre avec nous, elle est partie vivre avec ma grand-mère. Et
oui.
Disons que c'était l'organisation de la détestation et de ma première belle-mère et de mon père. Parce que mon père aussi, je me rends compte que c'était loin d'être le salaud qu'on m'a décrit. Hein. Maintenant, je le vois. Bon, je sais bien qu'il avait un petit côté un peu raide, quoi.
Oui.
Mais bon, c'était aussi des gens de cette génération, c'est pas des gens qui. Bon, c'était pas pareil quand même, les familles avant.
Et entre vos 4 ans et vos 15 ans, vous aviez des bonnes relations avec votre père ?
Bah non. Ah non, non, moi j'ai toujours détesté mon père. Enfin, oui, il me semble. Enfin bon, autant que je me souviens, donc peut-être pas petite fille, mais. Ah bah non, c'était le sport national, même. Enfin, maintenant, ça me fait rigoler, mais je faisais vachement de provoques, tout ça.
Donc, vous viviez avec votre...
J'avais plus d'état quand j'étais adolescente que de choquer, par exemple. Quoi. Donc,
Vous viviez avec votre père et votre première belle-mère,
oui.
Et vous étiez dans une ambiance de haine, d'une certaine façon, puisqu'on vous conditionnait à détester votre belle-mère et, par suite, à critiquer votre père aussi.
Oui. Et... C'était une drôle d'ambiance.
Ah, mais oui.
Il n'y avait personne qui venait chez nous. Déjà, moi, je vais au CMP, la psychologue, elle m'a dit, c'est quand même curieux. Vous me dites que vous avez Diogène, mais vous me parlez de votre papa, c'est pareil, il n'y a personne qui venait chez vous. Bon, mais il n'y a pas le bordel, par contre, c'était propre.
Mmh.
Mais c'est vrai que c'était un tombeau, là-bas.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé quand votre première belle-mère donc, a disparu? Elle a été malade et votre père est resté seul un temps avant d'épouser votre deuxième belle-mère?
Oh, pas très longtemps, hein. Mon père, il se remarie tout de suite.
Oui, oui.
Apparemment, c'est le genre de mec qui reste pas tout seul, quoi. Enfin, je sais pas exactement combien de temps, mais pas très longtemps.
Pas longtemps.
Enfin, faudrait que je réfléchisse, mais non, pas très longtemps.
Et dans l'intervalle, quand il a été veuf, donc pour la deuxième fois de votre première belle-mère, vous étiez à la maison, vous vous êtes un peu rapprochés ou c'était toujours aussi difficile avec lui?
Bon, moi j'étais adolescente, hein, donc j'étais déjà pas plus souvent à la maison. J'essayais d'être souvent chez ma grand-mère, parce qu'à l'époque j'aimais bien ma grand-mère. Maintenant je me rends compte que ma grand-mère aussi a participé. C'est elle qui disait on n'a qu'une maman. Enfin, maintenant ça me paraît monstrueux, monstrueux.
Oui, ça l'est. Alors, c'est...
J'ai entendu des fois des témoignages dans la libre antenne, il n'y a pas très longtemps, mais enfin quand même quelques mois, un mec qui revient à 35 ans parce que c'était le géniteur d'un enfant et qui dit mais enfin c'est moi le vrai père, mais oh, j'aurais pu casser tous les murs quoi le vrai père c'est ça, enfin, le vrai père c'est celui qui est là, moi ma vraie maman c'était cette femme qu'on m'a appris, ma mère biologique comme je dis maintenant c'est une fiction.
Ben oui, et puis ce n'est pas que la biologie qui fait la maternité et la paternité. Ce qui fait la maternité et la paternité, c'est comme vous le dites, c'est le soin quotidien, c'est l'amour partagé jour après jour, ce sont les années de vie ensemble. Et vous, en tout cas, on ne vous a pas permis de choisir votre maman en la personne de cette première belle-mère.
Oui.
Oui. Et ensuite, donc, quand la deuxième est arrivée, là, il n'a pas été question d'amour entre vous et elle.
Bah non,
vous étiez adolescente.
Elle m'a foutu à la porte, comme je vous ai raconté tout à l'heure. Bon, il faut dire, j'étais dans une époque où j'étais très remontée contre mon père, donc n'importe comment, c'était pas bien difficile ce qu'elle a fait. Hein. Enfin, je me rends compte de ça a posteriori, quoi.
Mais... Oui. Est-ce que ça vous semble juste de dire que du fait de toutes ces... Oui, de toutes ces manipulations, bon, conscientes ou inconscientes, au fond, vous n'avez jamais pu vous appuyer sur votre père. Votre père n'a jamais été un repère pour vous. Est-ce que c'est juste de dire ça?
Bah, je sais pas, je me dis, il nous a élevés quand même.
Oui, il vous a élevés, mais dans votre esprit... Vous l'aviez...
C'est sûr, je ne pouvais pas lui parler. Je ne peux pas lui parler de choses importantes.
Oui. Et est-ce que vous l'aviez discrédité dans votre esprit au point de penser que ce n'était pas vraiment votre père ou pas vraiment un père pour vous? Est-ce que ça allait jusque-là?
Oh non, je pense que... C'est... Non, ça, j'ai toujours pensé que c'était mon père. D'abord, je sais que c'est mon père. Non, mais que je ne m'entendais pas avec lui, quoi.
Oui, oui. Et ensuite, donc, vous êtes partie, vous avez quitté la maison, donc vous dites que vous avez gagné votre vie. Vous étiez indépendante. Vous avez fait des petits boulots, comme vous dites.
Oui, j'ai quand même, je trouve, jusqu'à présent, toujours été bien dégourdée. D'ailleurs, même sur la ferme, ça me sert encore, parce que, entre autres, quand on est en difficulté, c'est bien commode de savoir négocier.
Bien sûr.
Savoir s'arranger avec les gens pour... trouver des moyens de payer notre dette petit à petit, continuer à travailler.
Oh. Alors, dans ce contexte, donc, quand est-ce que ça a commencé pour vous, l'accumulation d'objets, le désordre par rapport à ça? Donc, vous avez pris votre vous êtes partie, donc je suppose que vous êtes d'abord allée chez votre grand-mère, et ensuite, quand vous avez travaillé, vous avez pris votre propre logement, c'est ça?
Oui, j'avais un logement. Bah, d'ailleurs, c'était un logement à ma grand-mère, mais enfin bon, j'étais indépendante.
Alors, comment ça a commencé? Vous vous souvenez de ce qui se passait dans votre tête, de vos sentiments et des premiers symptômes?
Moi, je pense que j'aime pas jeter, parce que j'aime bien, bon, parce que j'avais des velléités d'écrire des livres, tout ça, donc je gardais des tas de choses, des articles de journaux, même je faisais des, par exemple, je lisais un livre, je faisais des commentaires, je faisais des fiches, tout ça. Bon, j'avais beaucoup de livres, j'aime bien la brocante, bon, je sais pas comment vous dire, il y a un moment où ça va, il y a un moment où ça tombe dans le... Mais bon, avant, là, ce qui s'est passé il y a 5 ans, ça n'a jamais été comme j'ai fait ici. Hein.
C'est ça. En fait, ça a augmenté avec l'état de choc.
Mais je pense que, disons que je pense que j'avais un peu comme une base, quoi, pour que ça fasse ça.
Oui, vous le dites, vous aviez du mal à jeter. Est-ce que pour vous, vous séparer d'objets, ça provoquait de l'angoisse chez vous?
Ah bah oui, surtout si on le fait, par exemple, mon mari, il essaie de virer des trucs en douce, alors là, ça me met dans un état. Là.
Oui, mais ça, c'est absolument pas à faire. Est-ce qu'en fait, ce que vous viviez, Mia, dans votre esprit, c'est que les objets, c'était comme une partie de vous, comme quelque chose qui... Oui, je peux pas dire autrement.
Moi, je pense que ça me ramène à ma famille, quoi. C'est...
Oui.
Des vieilles choses, des...
Parce qu'au fond, dans votre esprit, tous ces objets dont vous ne vous séparez pas, ce sont des parties de vous que vous gardez.
Oui, peut-être.
Presque.
Moi, j'aime bien. Je dis par exemple, ça, c'est l'armoire qui était là chez ma grand-mère, le truc qui était là. Enfin bon, on me laisserait faire, je garderais tout, quoi.
Oui. Oui, c'est les objets de votre grand-mère, mais c'est aussi ce qui est une partie de vous au sens propre. Parce que si vous dites que ce sont des choses qui pouvaient, des bouts d'écriture ou des choses qui pouvaient vous aider à écrire, là c'est encore plus proche que vous, c'est vraiment de vous, c'est vraiment des parties de vous.
Oui. Ah bah oui, ah oui.
Parce que Mia, ce qu'on ne peut pas faire dans un syndrome comme le vôtre, c'est séparer quelqu'un de force de ses objets. Parce que ça génère une angoisse abominable, comme vous avez dû le vivre. Donc ça, c'est en aucun cas la solution.
Peut-être quelqu'un pouvait l'expliquer à mon mari.
Oui, mais ça, vous savez, quand vous avez... Parce que c'est pas simplement une question de désordre, c'est pas juste une question pratique. Votre mari n'a pas une femme qui a un problème de rangement. Votre mari a une femme qui a un problème d'angoisse. C'est-à-dire que si vous n'avez pas autour de vous des objets que vous vivez comme des prolongements de vous, que vous vivez comme des parties de votre personne propre, si vous les avez pas ou qu'on vous les coupe, ça génère une angoisse gigantesque. Est-ce que c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Oui. Alors ça, déjà, c'est essentiel que votre mari le comprenne. Vous êtes suivi ?
Oui, je suis.
Vous avez parlé d'un CMP, c'est ça. Donc, au CMP, vous voyez un ou une psychologue, c'est ça ?
Je vois une psychologue. Au début, je voyais la infirmière psychiatrique, mais j'ai mis plusieurs années à oser leur dire, alors.
Ben ça, pourtant,
j'ai vu le psychiatre aussi quelquefois, parce que j'ai aussi des phobies.
Quel genre de phobie ?
Je conduis plus les voitures, j'ai des crises d'angoisse épouvantables, je conduis plus du tout la voiture.
Oui. Vous souffrez...
Et puis j'ai des tocs, épouvantables les tocs en ce moment.
Mia, je comprends que vous parliez du syndrome de Diogène, parce que c'est ce par quoi ça se manifeste, mais votre souffrance, c'est avant tout une angoisse massive. C'est ça dont vous souffrez, qui se traduit entre autres par l'impossibilité de se séparer de vos objets, l'impossibilité aussi de faire changer des choses dans votre appartement. Certainement que le changement vous angoisse si on nettoie l'appartement ou si on instaure une autre disposition des objets, ça vous angoisse aussi.
Oui.
Ben oui. Donc c'est de ça dont vous souffrez. Alors pour ceux qui nous écoutent, le CMP, donc c'est un centre médico-psychologique, c'est attenant à des établissements publics et ça peut fonctionner comme un hôpital de jour ou comme en consultation de jour en tout cas.
Oui, parce qu'ils m'ont envoyé aussi pendant un moment dans un groupe où on allait la journée, on parlait, c'est un peu comme un... Enfin, c'était pas un groupe de parole, on nous montrait des photos, on nous posait des questions, il fallait expliquer. Mais c'est comme ça qu'après j'ai atterri chez le psychiatre pour essayer de soigner la peur dans la voiture, mais ça n'a pas marché.
Et comment vous faites avec vos angoisses tous les jours? Parce que vous dites, vous en avez nombreuses, donc celles qui sont liées à tous ces objets dont vous ne parvenez pas à vous séparer, sont liées aux différentes peurs, aux phobies. Comment vous faites avec autant d'angoisses tous les jours?
Bon, je sais pas, moi j'ai beaucoup d'animaux, donc
oui.
En général vers les animaux, je suis bien.
Vous avez raison. Contact avec les animaux, c'est des sentiments très apaisants. On le sait, maintenant en neurosciences, il y a des champs électromagnétiques entre nous et les animaux et des émotions qui passent. C'est vrai que ça apaise beaucoup. Oui.
Et puis dehors aussi, ça apaise beaucoup. C'est par exemple mon activité favorite qui fait rire tout le monde, parce que personne ne veut commencer à enlever les ronces, parce qu'on est en agriculture bio, donc on n'a pas le droit de mettre des produits, bien sûr. Donc j'enlève des ronces et des ronces et des ronces et des ronces. Ah, j'adore faire ça. Je pourrais faire ça.
Ça vous apaise?
J'ai l'impression que je pourrais faire ça 300 jours dans l'année. ce qui n'est pas le cas, mais je veux dire,
Ça, c'est très apaisant parce que plus vous allez apaiser votre angoisse, moins la tentation extrême de l'accumulation d'objets va se faire. Parce qu'elle est une conséquence directe de votre angoisse.
Ouais.
Donc déjà, toutes les activités...
J'aime beaucoup le cinéma aussi. Oui. Donc je vois beaucoup de DVD, ça me compte beaucoup pour moi.
Les mondes imaginaires, ça vous aide quand vous vous évadez?
Oui. Et après, si les programmes de radio me plaisent plus, c'est la cata. Mais la cata en vrai, je me sens pas bien.
Oui, Mais en fait, ça fait comme les objets dont vous n'arrivez pas à vous séparer. Au fond, tout ce qui vous entoure dans votre vie, c'est comme si vous en faisiez une partie de vous-même pour vous rassurer et vous sécuriser. Donc chaque fois qu'il y a une séparation ou un déplacement, ça vous angoisse, comme si vous étiez morcelé.
Ouais.
Et vous dites que le psychiatre ne vous a pas aidé. Qu'est-ce qu'il a tenté pour vous aider ?
Mais c'est-à-dire que c'était axé sur la voiture. Ah, parce que c'est dans ce groupe que j'allais. Il y avait une fille avec qui, d'ailleurs, c'est incroyable ce qui s'est passé. Elle m'avait bouleversée, cette femme. Cette jeune femme. Et elle voulait absolument qu'on me soigne. Je pense que c'est le fait qu'elle voulait s'occuper de moi qui m'a tellement touchée. Je ne vais pas parler de ces problèmes-là, elle m'en avait pourtant beaucoup. Et donc, il faisait l'EFT, ce monsieur.
Oui.
Mais en même temps, ce qui s'est passé dans les séances, c'est incroyable. Il m'a fait venir des images dans la tête, mais de cinéma, justement, mais qui était en rapport avec la mort de ma mère, en fait, je ne m'en rendais même pas compte. Et de films qui m'ont toujours bouleversée, je ne m'étais jamais rendu compte pourquoi, en fait.
Et ça vous a aidé, ça, ce travail sur les images?
Au début, j'ai reconduit. C'est vrai que j'ai reconduit un peu, mais jamais à fond. Parce que, par exemple, je ne sais pas pourquoi, j'ai développé des peurs paniques dans les côtes. Mais vraiment, des paniques, je sors de la voiture. Même une fois, j'ai laissé le camion aller dans le décor. Je suis descendue, j'ai sauté.
Oui, c'est vraiment l'attaque de panique au sens où elle est insurmontable à ce moment-là.
Après, je ne sais pas.
Oui.
Donc du coup, je conduis plus maintenant. J'ai relaissé tomber. D'abord, c'était avant le décès de mon père. Donc après, ça a tout refoutu à l'arrêt.
Et là, au moment du décès de votre père, vous nous l'avez dit, tout s'est radicalisé.
Ouais. Oui. Mais là, le docteur, je vais le revoir, le psychiatre. J'ai un rendez-vous en août. Parce que depuis, du fait de tout ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais l'infirmière psychiatrique que je vois, elle veut faire un dossier en invalidité, je peux plus rien faire, faut pas grand chose. Pour ça, faut passer dans le psychiatre.
Écoutez, un dossier en invalidité, pourquoi pas, si ça favorise votre vie pratique et que ça vous permette, dans les moments où vous n'êtes pas à même de travailler, de vous reposer. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est vous alléger de l'angoisse massive qui est la vôtre et qui se décline de beaucoup de manières. Ah oui, c'est...
Premier coup qu'elle m'a dit ça m'a fait pleurer. Je lui ai dit, ça y est, vous avez renoncé à me soigner, que je lui ai dit.
Oui.
Je ne veux pas m'en sortir, que je lui ai dit.
Et le psychiatre, vous lui avez expliqué la quantité d'angoisse à laquelle vous faites face?
Non, parce que c'était avant que je dise que j'avais dit aux jeunes ça. Puis je vous dis, il m'a vu, il faisait des séances de EFT, c'était 3 séances ou 5, je crois, suivant les cas. c'était vraiment axé sur la voiture. Les crises de panique dans la voiture.
Oui, mais ça, je pense que c'est un symptôme qui est important, qui est invalidant, mais ce n'est pas la cause. Vous avez une angoisse fondamentale. Alors, bon, c'est toujours difficile parce que la question des causes, c'est des choses profondes et complexes. Mais ce qui me semble, c'est que à travers l'enfance tellement difficile que vous avez eue, vous n'avez pas pu prendre de repères solides parce que vous avez perdu votre maman biologique, vous avez perdu celle que vous aviez choisie comme maman adoptive, parce que un parent peut adopter un enfant, mais un enfant adopte un parent. Oui, ben oui. Donc vous n'avez pas pu trouver votre repère dans cette relation-là. Votre père, comme vous le dites, c'est votre père, il n'était pas absent, mais il n'était pas à même d'être avec vous dans une fonction protectrice et dans une fonction de pilier extrêmement solide, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il soit auprès de vous. Bon, la question des belles-mères et de l'atmosphère familiale l'a empêché par moments d'être radicalement auprès de vous et de vous protéger. Quand vous êtes parti, par exemple. Donc, bon, sans développer plus que ça, parce que ça, ce serait le travail d'une thérapie, cette absence de repères dans votre histoire a créé, mais il y a une fragilité dans votre structure psychique. Et cette fragilité se traduit par des angoisses massives et a pour conséquence des symptômes dont celui de traiter les objets comme une partie propre de vous et comme un environnement familier dont vous ne pouvez pas vous passer, qui ne doit pas bouger. Cette angoisse, elle se traduit aussi par vos phobies, par vos attaques de panique. Donc, je pense que pour vous, pour que les choses bougent, y compris le syndrome de Diogène qui fait partie du tableau, il s'agit de traiter par des molécules l'angoisse dont vous souffrez, parce qu'il y a des traitements pour ça. On ne peut pas vous laisser dans un état d'angoisse pareil. Et si l'angoisse est traitée, il y a forte chance que ça atténue le syndrome de Diogène aussi. Donc je pense que c'est essentiel que vous expliquiez à votre psychiatre à quel point vous êtes accablé d'angoisse sous des formes différentes. Ça, c'est important qu'il l'entende. Et si jamais il ne l'entend pas et que lui, il garde l'angle uniquement de la phobie de voiture, il faut que vous demandiez à voir quelqu'un d'autre au CMP. Mais c'est important que ça soit entendu, ça, et que votre angoisse soit traitée. Bon, il y a différentes molécules. Le travail d'un psychiatre, c'est de vous écouter attentivement, de se faire une idée sur la cause de l'angoisse, se faire une idée sur votre structure psychique et à partir de là, de vous prescrire les molécules qui peuvent vous alléger. Et à côté de ça...
Il me l'a proposé, mais je n'ai pas voulu. Moi, je ne veux pas prendre de drogue.
C'est pas des drogues. Ce sont des... Vous savez, sont pas des drogues au sens où ça vous rendrait dépendant et ça changerait votre personnalité. Ce sont des molécules qui, aujourd'hui, avec les progrès qui sont faits, arrivent à cibler de plus en plus précisément l'angoisse. Alors parfois, il faut être un peu patient parce qu'on essaie une molécule sur une personne et ensuite, il faut le retour d'expérience. Il faut qu'elle dise ce que ça lui fait pour pouvoir s'assurer que c'est la bonne et pouvoir faire les bons dosages. Mais ces molécules, ce n'est pas de la drogue, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour être allégé de cette angoisse. Et si l'angoisse s'allège, le syndrome de Diogène va s'alléger, les phobies aussi. Ça, c'est central. Je pense que vous ne pouvez pas vous en passer d'un traitement. Surtout si un... Bon, ça, je vous le dis sans vous connaître, donc c'est toujours une hypothèse, mais si un psychiatre vous le dit, il faut l'écouter. Et par ailleurs, je pense que vous avez aussi besoin d'une thérapie par la parole, parce que il y a encore en vous une part de l'enfant livrée à elle-même. Et je pense que vous avez besoin d'un lien de parole, d'abord qui vous aide à vous connaître, à vous repérer dans tout ce qui vous arrive, qui vous permette aussi de vous repérer dans un lien qui soit stable et dans lequel il puisse y avoir une forme d'amour. Vous savez, en thérapie, c'est pas le même amour que dans la vie. Avec un thérapeute, c'est pas un amour qui rend dépendant. Et vous, de votre côté, c'est un amour qui ne vous met pas en dette, qui ne vous crée pas d'obligation, mais c'est un amour aussi. Et ça crée un repère. Donc je pense que pour vous, l'idéal, ça serait...
C'est ce que j'ai en ce moment au CMP, parce que j'ai un rendez-vous par semaine.
Et comment vous vous sentez avec la personne? Donc, c'est pas la même. C'est, vous avez bien d'un côté un psychiatre, comme on fait en CMP. Hein. Vous avez d'un côté ouais. votre psychiatre et de l'autre la psychologue pour la relation par la parole. C'est bien ça.
Et puis l'infirmière psychiatrique. Et un coup l'infirmière psychiatrique, la semaine d'après la psychologue et ainsi de suite.
D'accord. Et avec votre psychologue, comment est la relation? Est-ce que vous y trouvez?
Ah bah super.
Ah, donc ça c'est très bien, c'est très bien.
Super. Bon, par contre avec l'infirmière, bon, comme je disais à votre collègue là, quand elle m'a appelé, j'aime pas bien cracher dans la soupe parce que au début moi que je suis allée au CMP, c'était même pas par rapport à mes problèmes, c'est par rapport à la ferme parce que c'est mon mari qui avait disjoncté là, à ce moment-là.
Oui.
C'est une dame qui était venue mais pour enfin qui travaille dans un organisme agricole qui me disait vous savez vous pouvez t'aider donc bref j'ai atterri là-bas par l'assistante de la MSA, l'assistante sociale de la MSA, voilà.
Oui, oui.
Mais au début je parlais que de la ferme, les problèmes de ferme, puisque on a subi un très gros problème en 2012-2013, c'était les années noires là. Et puis mon mari, il avait complètement disjoncté, il était devenu fou. Mais vraiment fou, hein.
C'est-à-dire ?
Tout cassé.
Il a perdu pied, c'est ça ?
Il a été submergé.
C'était trop.
Ouais. Et puis donc, moi j'estime qu'elle m'a sauvé la... Enfin, elle nous a sauvé la vie.
Oui.
Bon, mon mari, l'assistante sociale de la MSA, elle est arrivée à le faire aller au CMP, mais lui, c'est un paysan, il aime... Ça, il va pas dans la tête faire ça. Quoi. Il y est allé quelques fois, puis il a laissé tomber.
Je pense qu'il faut que votre mari comprenne que c'est pas un problème de rangement, c'est pas un problème d'effondrement qui sort de nulle part. Il faut qu'il comprenne que vous avez une angoisse massive qui vient des douleurs de votre histoire. Et que le reste est une conséquence. Ça, c'est important qu'il le comprenne. Et que dès lors, vous puissiez... traiter avant tout cette angoisse, en parler avec le psychiatre, surtout continuer votre relation par la parole avec la psychologue si vous avez ce lien qui se passe bien. Ça crée de la stabilité et du repère dans votre vie. Et entre ce lien de parole et l'aide de la molécule adaptée, vous pouvez vraiment déjà être beaucoup soulagé. Alors, ça ne peut-être pas disparaître, mais l'important pour vous, vous avez le droit de continuer à garder des objets mis à. L'important, c'est que ça rentre dans une mesure qui soit supportable, qui soit vivable.
Voilà.
Alors, il y a énormément de messages de soutien. Alors, je ne les lis pas tous parce que chacun prend un angle différent, parce que ce que vous nous dites est très riche. Donc, Laurence vous parle des crises d'angoisse qui font très mal, pour laquelle il s'agit de prendre des traitements. Donc, beaucoup de compassion pour ceux qui ont l'expérience de l'angoisse. Alors, les caresses aux animaux qui sont également soutenues par Stéphane. Cathy qui dit que vous êtes dans une grande souffrance, que vous n'avez aucune aide de la famille, qu'il faut l'aide de professionnels, donc là aussi ça soutient votre thérapie. Jacques qui dit « Mia, vous rendre compte et accepter votre syndrome est un premier pas vers sa résolution, il faut une aide, un soutien, un suivi avant de reprendre le dessus et de retrouver un bien-être, bon courage à vous ». Donc là aussi, Jacques dit qu'il s'agit d'accepter qu'il y a quelque chose de l'ordre du symptôme. Donc voilà, et d'accepter d'être soignée. Et Isabelle, beaucoup de courage à cette dame. Bon, elle propose des méthodes de tri et elle dit « Vous avez l'air tellement mal, il faut faire quelque chose ». Donc il y a beaucoup de compréhension de la part des auditeurs. Donc certains vont être sensibles à votre angoisse, d'autres à votre détresse, d'autres à votre solitude familiale, d'autres au courage dont vous avez besoin. Mais je pense que c'est important que vous ayez l'idée qu'il y a des traitements. Il y a des traitements pour l'angoisse dont vous souffrez. Et que vous ayez l'idée, bon, vous allez l'affiner dans votre thérapie, peut-être la psychologue reprend ça, mais que ça vient probablement de cette difficulté à prendre des repères stables, donc dans la relation paternelle, dans la relation maternelle, bon, qui n'ont pas le même rôle, mais sans repères, personne ne peut se structurer sans faille. Vous voyez ?
Oui.
Mais il y a des solutions, ça peut être long, mais en tout cas, vraiment là, il ne faut pas avoir peur du traitement de la molécule adaptée pour vous.
Oui.
Mais n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles.
D'accord.
Voilà, je vous remercie de votre confiance. Vous nous avez dit des choses personnelles. Vous avez eu le courage de parler de beaucoup de choses et aussi de soulever des choses difficiles. Donc vraiment, je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup.
Merci.
Voilà, je vous embrasse, Mia.
Mmh. Merci, au revoir.
Au revoir.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, votre espace pour tous les sujets qui vous interrogent ou vous soucient. Travail, couple, amour, famille, santé. Toutes vos questions sont bienvenues au 09 69 39 10 11. Pendant plus d'une heure encore, n'hésitez pas à nous appeler. Vous pouvez aussi nous écrire pour réagir, soutenir un auditeur comme vous venez de le faire beaucoup pour Mia. Par SMS au 64 900 code RTL ou sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Sabine.
Je vous écoute Catherine, de quoi souhaitez-vous nous parler ?
Bonsoir, eh bien déjà je voulais vous dire que je suis particulièrement émue d'être sur l'antenne aussi.
Oui. Ben oui, c'est normal. Vous aviez peut-être envie depuis un certain temps de nous appeler.
Oui.
Et puis, bon, on pense à l'antenne dans un premier temps, mais vous verrez, dans quelques minutes, on sera toutes les deux dans le dialogue et vous serez prise par ce que vous allez dire.
Oui.
Expliquez-moi tout simplement, voilà. Dites-moi avec vos mots, ne cherchez pas particulièrement à ordonner, on va ordonner ensemble.
Ah ben voilà, très bien.
Oui, dites-moi comme ça vous vient. Et on remettra de l'ordre toutes les deux.
C'est le plus dur de commencer par le plus urgent, tellement il y a à dire autour.
Parce que alors voilà, dites-nous peut-être
par exemple,
de quoi vous souffrez.
Je voulais moi-même rebondir sur Mia,
oui.
Car je suis totalement concernée par ce qu'elle a dit. Je suis exactement pareil à propos des tocs, des objets dont j'ai besoin de garder.
De vous entourer.
Oui. Et surtout dans mon cas, parce que vous savez, comme je vous ai dit, bon, j'ai été expulsée, tout ça.
Alors, voilà, si vous voulez, vous avez dû en parler à Sarah, si vous voulez bien nous expliquer, voilà, pour moi et pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous avez été expulsée, vous dites ?
Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez été expulsée ?
Vous voyez bien, même la veille, j'ai cherché à vous appeler.
Oui.
Voilà, la veille de l'expulsion.
Ah.
Oui, là, c'était en 2000. Nous sommes en voilà, déjà 2021, oui, 2019. C'est ça, hein, 2019.
Oui,
septembre.
Il y a deux ans.
3
donc.
Septembre. Donc, vous voyez, ça va faire deux ans. Et à propos de toutes les affaires comme ça, éparpillées un petit peu partout, effectivement, comme vous avez bien répondu à Mia, c'est une angoisse perpétuelle.
Oui.
À propos de tous mes objets éparpillés aussi, si vous saviez en plus. Ça va très très loin, parce que je suis une sentimentale. Et pareil, j'ai besoin de m'entourer de beaucoup de choses.
Oui.
Peut-être même dès que j'entends une chanson à la télé, dès que je me dis « Ah, ça, je l'ai !» Je l'avais enregistré en cassette. Vous savez, je suis assez vintage, bien sûr. Bon, j'ai eu 55 ans et j'ai choisi. Et je suis désolée d'être un petit peu enrouée.
Vous inquiétez pas, on vous suit très bien.
J'ai fait mes deux vaccins et vous savez, j'ai un petit peu des... Voilà.
Ah, ça vous a causé quelques symptômes ?
Ben oui, apparemment oui, le fait d'être enrouée. Et ça, je déteste, par exemple.
Non, vous inquiétez pas, on vous comprend très bien.
Donc, voilà, je suis exactement pareil, je suis tellement pressée de récupérer. Dans mon cas, ça va s'arranger, parce que normalement, à partir du 27 juillet,
oui.
J'aurais pu sortir toutes mes affaires, c'est-à-dire un F3, vous savez. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Oui.
Dont les affaires, les souvenirs de mes parents, ben, je ne peux pas m'en passer, impossible. Les photos, les vieilles photos, bien entendu, il y a aussi mes CV.
Et où avez-vous pu mettre tout ça, Catherine ?
C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est les HLM parce que j'ai été expulsée au bout de 21 ans.
Oui.
Et je dis la vérité, mais l'argent, on en parlera plus tard. Enfin, je ne sais pas comment tout expliquer rapidement. J'ai été expulsée pour 2750 de retard.
Ah, vous aviez laissé des loyers impayés, c'est pour ça ?
Voilà, c'est ça, oui, des impayés.
Donc au bout d'un moment, la machine de procédure s'est mise en marche, c'est ça ?
C'est ça.
Oui.
Oui, et je reconnais qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que j'ai coulé, quoi. Vous voulez, je n'ai pas su remonter. J'étais déjà en dépression par le fait de ne plus voir mon petit-fils.
Oui.
Parce que je l'ai vu jusqu'à ses 16 mois. Et donc, c'est très dur. Ça, c'est pareil. J'y arrive pas. J'y arrive pas. À me mettre dans la tête. Je suis grand-mère et je peux pas faire mon rôle. Et je m'ennuie de sa voix.
C'est votre fils, c'est ça ?
Oui, oui.
Et vous avez des difficultés de relation avec votre fille ? C'est elle qui fait obstacle à ce que vous voyez votre petit-fils ?
Totalement. Oui, oui, oui. Je vous dis, il avait 16 mois. Et après, lorsque on essaye de... bon, une fois j'ai réessayé, le petit devait avoir que à peine 3 ans. Je l'ai vu devant chez sa grand-mère. Dans le jardin, j'ai eu de la chance, mais je suis avec quelqu'un. Et c'est une personne de Paris, d'ailleurs, très bien placée,
oui.
Un juriste, que je venais connaître la veille, d'ailleurs, ça je précise, il pourra peut-être se reconnaître. Mais c'est vrai qu'il m'a amenée, et lui, il est resté fermé dans la voiture, il a filmé, vous voyez. Mais c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, moi-même, j'ai été obligée de partir, parce que les voisins arrivent... Vous savez, on ne sait pas s'ils vont pas aller chercher le fusil, voilà, quoi. Et comme il était petit, elle a demandé au petit s'il voulait bien m'embrasser.
Oui.
Mais elle l'avait briefé avant, parce que dès qu'elle m'a vu arriver, elle a attrapé le petit et elle est rentrée chez sa mère. Et donc, la personne avec qui j'étais a insisté par la voix pour qu'elle ressorte avec le petit. Vous voyez ?
Donc vous sentez rejeté.
Mais il y avait toute sa famille, sa maman, sa sœur, son frère qui débarque à la moindre seconde, les voisins, son voisin, ou je ne sais pas s'il n'y avait pas un oncle. Voilà. Et ça, ce problème, je le souligne parce que vu que j'ai craqué, au mois de juin, là, j'étais libre. Et donc, je me suis dit, je voudrais au moins l'apercevoir devant l'école. Et j'y cherchais à y aller, et je ne l'ai pas reconnu, quoi, si vous voulez. C'est pas reconnu. J'ai peut-être reconnu son grand frère. Vous savez, son grand frère, parce qu'elle avait un premier enfant.
Oui.
Elle avait un premier enfant. Il avait 5 ans et demi, lorsque j'ai connu. Et comment ? Ils sont séparés. Ils devaient avoir 7 ans et demi. Eh bien, c'était pareil. Ils ne pouvaient pas voir son père.
Et vous pensez qu'il y a un rapport entre le fait que vous ne puissiez pas voir vos petits-enfants et l'instabilité liée au logement ? Vous pensez que c'est ça qui...
Oui, bah, je suis restée en dépression dans un appartement où j'étais très mal à l'aise à cause du froid. J'ai beaucoup souffert là-bas à cause du froid aussi. Et pas trop d'argent, pas de motivation. Et mon fils est revenu à la maison.
Oui.
Après, parce que ça s'est passé... Je ne sais pas si je peux dire, vous savez, les dates, les trucs, parce que... Et pourtant, d'habitude, je suis la première à citer le nom de mon petit-fils. Hein. Mais là, je ne sais pas... vous savez, je crains tout. Je crains beaucoup de... Donc, toutes ces familles, vous savez, colériques, qui en rajoutent.
Je comprends.
Sont bagarreuses. Vous savez,
vous avez peur d'être rejeté et que tout ce que vous pourrez dire vous disqualifie davantage.
Ah ben voilà. Oui. Et en plus, vous savez, c'est une personne assez maigre, très maigre. J'ai toujours été jugée là-dessus dès qu'on me voit arriver. Hein. Il n'y a pas. Et donc, je suis toute seule aussi, parce que ça, j'ai choisi depuis presque 13 ans. Début juillet, ça a fait 13 ans, j'ai choisi de rester seule. Donc voilà, c'est facile, quoi. Je suis toute seule. Et c'est facile d'arriver à trois personnes très fortes autour de moi. Vous savez, c'est tout le temps qu'on fait le coup. Tout le temps.
Et aujourd'hui, Catherine, parce que j'ai l'impression que beaucoup de choses partent de là, comme pour chacun de nous d'ailleurs, est-ce que vous avez une solution pour vous stabiliser en termes de logement ? Parce que certainement, beaucoup de conséquences en découlent. Je suppose que si vous aviez une certaine stabilité, ça serait plus simple pour tenter de voir vos petits-enfants. Ce serait peut-être plus simple aussi pour calmer vos angoisses. Enfin,
oui,
est-ce que vous avez un...
De toute manière, moi, qui t'a rencontré le petit, et comme ça va certainement se passer, c'est-à-dire à la médiane, mais vous savez, pour ça, il faut que je fasse ma lettre à la juge. Et j'y arrive pas, parce que... Je ne sais pas si je dois tout dire de ce que je sais d'elle et de sa famille. Parce qu'il faut savoir que je l'ai connue petite. C'est-à-dire que c'est le papa de cette fille venait chercher mes frères pour jouer à l'époque.
Oui.
Et le grand-père de cette fille a été pompier avec mon père sur Chartres, à l'époque, vous voyez.
Oui.
L'ancienne caserne pompier de Chartres. C'est là que j'étais. Vous voyez, vraiment, bon, déjà, j'ai connu... Oh, il y a tout ça aussi, le coup du monde, le bruit du monde, j'en ai besoin, et l'action, l'activité. C'est bien parce que j'ai vécu dans une caserne aussi, vous savez.
Dans une caserne, c'est-à-dire ?
De pompiers.
Parce que vous avez été hébergé là, ou...
Non. Lorsque j'étais petite.
Ah.
C'est-à-dire, je vous disais... les frères, le papa de cette jeune fille venait chercher mes frères à l'époque devant la caserne pour sortir.
D'accord. Vous savez, Catherine, on va marquer...
avec mon père.
Voilà. On va continuer notre échange parce qu'il y a beaucoup d'éléments de ce que vous dites et c'est important qu'on puisse les entendre. On va marquer une petite pause, le temps des informations. Surtout, vous ne quittez pas, nous vous retrouvons dans un instant. Vous restez bien en ligne, Catherine, et on va poursuivre notre échange pour que vous puissiez développer les différents aspects de votre situation.
D'accord.
22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Nous sommes heureux de vous accueillir si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, l'émission qui reçoit en direct vos questions et ouvre des voies pour donner des clés ou donne des clés pour les résoudre. Quel que soit le thème, n'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11 pendant une heure encore et toujours sur le répondeur. Et nous sommes en ligne avec Catherine. Donc Catherine nous a expliqué sa situation bien difficile. Donc Catherine a été expulsée il y a 2 ans d'un HLM, nous a-t-elle dit, pour des questions de loyer impayé. Et depuis, Catherine est dans une forme d'instabilité avec des souffrances qui s'enchaînent. D'abord une souffrance intérieure chez Catherine avec beaucoup d'angoisse, nous dit-elle. Et aussi des souffrances affectives puisque Catherine ne peut pas voir ses petits-enfants et a des relations difficiles au sein de la famille qui semblent ne pas faciliter les choses. Voilà. Catherine, est-ce qu'on a bien résumé ensemble et est-ce que vous êtes prête à poursuivre ?
Oui.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitez ajouter ou vous pensez qu'on a fait le tour de la situation ?
Oh non. Vous savez, il y a beaucoup de choses parce que justement, l'instabilité, comme je vous ai dit, les deux sont urgents, c'est-à-dire de retrouver un logement, mes affaires, et mon petit-fils, en fait, c'est vrai. Les trois sont urgents.
Oui.
Et dans l'histoire aussi, je ne vois plus beaucoup mon fils. C'est-à-dire que lui aussi, par le fait, il est dans la même situation que moi. C'est-à-dire quand on a été expulsé, il était avec moi. Et donc, du coup, lui, il est un peu aussi hébergé à droite, à gauche. Et peut-être que... Enfin, voilà. Vous savez, je sais que la maison, il m'a dit où il était... devait être vendu. Après, il me dit qu'il a trouvé un autre appartement. Mais je ne sais pas. En fait, tous les deux, on s'est habitués à la campagne.
Oui.
Parce que du coup, bon, j'ai été hébergée. C'est ça le problème au moins. Et ça, j'en peux plus, quoi. Parce que l'année dernière, ça se passait très très mal, quoi. Pour ma santé, pour tout. C'était dangereux. Franchement, oui, là, par contre, là, on est au mois de juillet et j'avoue, j'ai quand même trouvé un petit travail.
Oui.
Je suis assez heureuse de ça. Et c'est vrai que je vais passer un meilleur été. Parce que je n'ai jamais passé un été aussi pourri que l'année dernière. Quoi. Franchement, ça a été très dur. Chez la personne qui m'est bercée. Voilà.
Et Catherine, vous semblez vous débattre seule avec toutes ces difficultés. Vous n'avez aucune aide ? Parce qu'en général, quand il y a une expulsion, il y a la possibilité de faire intervenir une assistante sociale. Oui. Quand il y a des symptômes comme ce que vous avez, quand il y a des angoisses, on peut chercher des soins. Vous semblez vous débattre seule avec tout ça ?
Totalement, je suis totalement seule. Parce que... les assistantes sociales, ça ne m'a rien donné. J'ai quand même été expulsée. Tel que je vois maintenant, vous savez, je suis partie à 30 km de ma ville, à peu près. Et en fait, vous voyez, là, je suis en campagne. Enfin, je suis à 30-35 de ma ville.
Oui.
Mais en campagne, j'aime bien quand même. Oui. Mais je me suis rendu compte que l'HLM, moi-même, je ne peux peut-être pas y retourner.
Uh-huh.
Je crois que mon fils, il a fait le même constat. Bon. C'est déjà bien, parce que de toute façon, avant, on a été... j'étais sur, par exemple, nos gens de retour.
Oui.
Et j'ai été aussi inondée, vous savez, dans les maisons. Donc, là, tout ce qui s'est passé en Allemagne...
Oui,
vous voyez, ça, j'ai aussi du mal. Hein.
Oui, là, je comprends, ça a dû vous angoisser à nouveau.
Oh là là.
Et votre travail, il est à la campagne ? Il est
dans l'endroit
que vous aimez ?
C'est-à-dire que... Oh, j'ai aussi ce problème parce que, vous savez, j'ai deux petits chats.
Vous avez, deux ? Je vous ai pas entendu.
Deux chats.
Oui.
Alors, ça, c'est pareil, je peux travailler avec mes chats. Parce que chaque fois que j'étais hébergée, c'était la question, avec tes chats, on n'en prend qu'un. Donc, du coup, ils ont été séparés.
Et quand vous dites, je suis hébergée, c'était... Vous pensez à quel hébergement ? Est-ce que c'était des personnes que vous connaissiez ou
dans
le domaine public ? Oui.
Non, d'abord, ça a été mon neveu.
Oui.
Dans la même tour, je suis montée, tout en haut, c'est lui. Mais tout de suite, il m'a, au bout de 8 jours, c'est bon, il est reparti chez sa mère, soi-disant que j'étais insupportable, vous voyez.
C'est-à-dire insupportable ? Qu'est-ce qu'il vous reprochait au juste ?
Ben, rien. Mais j'en ai pris plein mon grade et tout ça, ça passe pas encore. J'arrive pas à lui reparler à mon neveu, je dis la vérité.
Oui.
Pour l'instant, non. Voilà, après mon fils est revenu et j'avais qu'un chat. Comment ça se passait ? Ah oui. Bon, bref, j'ai dû abandonner un chat. Enfin, au 6e, vous savez, c'est quelqu'un. Et le petit chat, il était un petit peu incontinent, vous voyez. Mm-hmm. Il n'était pas opéré encore, c'est vrai. C'est de ma faute, j'avais pas toujours les moyens. Donc après, je sais qu'il a vécu un peu dans le placard, quoi, chez le copain. Il était dans un tout petit placard. Donc ça m'a pas plu. Donc après, j'ai eu le poignet cassé en février l'année dernière.
Oui.
Le poignet, qui avait des blessés à l'autre épaule aussi. Des points de suture. Et du coup, ma soeur a voulu que je vienne chez elle. Bon, d'accord, je l'ai fait.
Oui.
Mais je reconnais que de février... À juillet, j'y suis restée. Mais j'aurais pas dû. Voilà, je le savais. Fallait pas que... C'est bof. C'est tout.
Catherine, vous avez évoqué quelque chose qui me semble très important, c'est vos souffrances morales. Vous avez dit que vous avez connu la dépression, l'angoisse. Vous voulez bien en dire quelques mots de ça ? Parce que vous avez beaucoup de souffrances morales aussi.
Ah oui.
Qu'est-ce qui s'est passé de quoi ? Vous avez eu des épisodes de dépression ? Vous avez eu des épisodes d'angoisse ? Est-ce que vous avez des phobies ? Est-ce que...
Oui, les phobies, oui. Lorsque mes petits chats, vous savez, ils ramènent... Dès qu'on est arrivé là, à mon travail, ils ont... Et pourtant, ma grande, elle n'était jamais sortie. Elle était plutôt élevée en HLM. Vous voyez ? Il n'y a que depuis que je travaille ici qu'elle a connu la campagne.
Oui,
mais
oui.
L'autre, il a connu la campagne chez ma sœur dans le jardin. Vous voyez, l'année dernière.
Oui.
Un peu aussi. Mais c'est compliqué aussi avec mes deux petites bêtes parce que lorsque j'arrête mon travail, quelquefois, le petit, j'ai mis 3 jours à le récupérer. Donc c'est pas facile, vous voyez, il y a plein de trucs.
Et ça vous procure des angoisses ? Vous semblez lier les phobies à vos chats ?
Mais ils me ramènent, vous savez, ils m'ont ramené des bêtes que j'aime pas pour jouer.
Oui.
En fait, ils les ont ramenées à la personne que je garde. s'adresser à lui, vous savez, comme remerciement. Mais donc, moi, même morte, je ne peux pas les regarder, je ne peux pas les enlever. Je suis obligée d'appeler quelqu'un.
Bon, ça, c'est plutôt et normal. Oui, bah, ça, Catherine, je vois rien d'anormal là-dedans, enfin rien de symptomatique. Alors, et du côté de la dépression ou de l'angoisse, il y a eu des choses plus lourdes.
Bah, vous savez, ça joue quand même l'histoire des bêtes, parce que vous savez que je reconnais que la personne qui me fait travailler m'a proposé gentiment en bas. Vous savez, il y a une chambre dans le garage.
Oui.
Mais en fait, je me vois pas. Avec mes petits chiens qui vont peut-être me ramener des bêtes sans arrêt, que je vais hurler, je vais appeler ma mère, quoi. Ah. Donc je vais réveiller tout le monde. Et c'est pour ça, vous voyez, c'est quand même... j'en suis gênée de ça, hein, je reconnais.
Oui.
Parce que même tout à l'heure, je vais vous dire la vérité, là j'ai appelé le petit jeune d'à côté, je lui ai donné une pince, et je lui ai demandé d'enlever une bête que mes chiens avaient ramené dimanche dernier dans la véranda. Mais je n'étais pas là, vous voyez. Et quand je l'ai vu, eh ben je peux pas l'enlever moi-même. Et comme j'ai vu personne depuis 8 jours, voilà, le petit lion, avec une pince.
Catherine.
Mais moi, c'est dommage que j'en sois là, parce que ça me rappelle petite. Oui, j'ai eu beaucoup de phobies.
Ah, c'est la question que j'allais vous poser.
Oui.
Voilà.
Il s'est passé des trucs petits là-dessus et je comprends pas, quoi.
Ouais. C'est-à-dire, quand vous dites des phobies petites, de quoi vous souffriez?
Bah, de la peur de ces bêtes-là. J'ai raison de pas à dire le mot, vous savez, mais vous vous doutez, hein. C'est ce que vous avez sur Paris, par exemple, ou ce que les chiens ramènent. Bon, à part les oiseaux, eh bien, j'ai très peur, mais je ne comprends pas pourquoi, on allait chez des gens, d'ailleurs, c'est là où on allait chercher le lait, tout ça, où on était heureux dans cette ferme, mais du côté jardin, il y avait plein de bêtes comme ça, mortes, et on me laissait jouer avec. Je comprends pas. On me fait jouer avec ces sales bêtes. Ah,
donc là, ça vous angoisse a posteriori. Enfin, ces souvenirs-là vous hantent.
Oui, parce que bon, voilà, on sait que c'est pas très propre et tout bord. Je sais pas pourquoi je faisais ça. J'étais aussi contorsionniste. Ça, je sais que je me souviens. J'arrive à me cacher dans la boîte aux lettres de ces personnes. Bon, il y a que moi qui ai rentré dans cette boîte aux lettres. Mais j'avais le défaut. On me fait jouer avec ça. Et bon, c'est resté. Hein. Puis vous savez, je ne suis pas la seule dans ma famille. Parce que voilà, je suis. Vous savez, la dernière d'une famille nombreuse.
Et globalement, le souvenir que vous avez de votre enfance, la coloration de votre enfance, c'est heureux, c'est malheureux, c'est comment vous diriez que vous avez vécu?
En fait, j'ai toujours vécu le fait qu'on me rabaisse, qu'on me. Voilà, sur mon physique. On me chambre beaucoup sur mon physique, on se fout de moi, et qu'on fasse passer pour une imbécile, une folle. Mais franchement, hein, parce que c'est ce qu'il y a eu l'année dernière, je ne voulais pas rester en compagnie de mon neveu, de ma sœur et de mon beau-frère. Vous voyez ?
Donc vous avez une longue
tellement
histoire.
Tellement j'ai trouvé mauvaise foi et surtout aucun tact, aucune manière. Ils m'ont blessé. Ils m'ont beaucoup blessé aussi.
Voyez, c'est important ce que vous dites, Catherine.
C'est
important ce que vous dites, Catherine, quand vous dites que ça remonte à loin les souvenirs de phrases rabaissantes et de sentiments de déprime qui en résultaient. Donc ça, dans votre histoire, il y a eu de la souffrance morale depuis longtemps.
Oui, c'était aussi beaucoup de croyances et puis après, en fait, à chaque fois, par exemple, bon, c'est vrai, lorsque j'ai perdu ma sœur à 13 ans. Jamais je m'en remets parce que elle me manque tous les jours, vous voyez.
Catherine, dans ce que j'entends,
chanteuse, guitariste, vous voyez, c'était la seule qui, elle était comme moi. 4 ans, oui, j'étais fortement déçue. Je venais de faire ma communion, tout ça, j'ai prié, mais.
Quand j'entends votre histoire, à travers ce que vous en dites, Catherine, j'entends tellement de souffrance morale. Donc vous avez eu des deuils, vous avez eu des expériences humiliantes, en parole du moins, des expériences de déprime, des phobies, des angoisses. Aujourd'hui encore, vous avez beaucoup d'angoisses, vous avez des phobies, et vous insistez pour dire que ce n'est pas des phobies ordinaires, et j'entends ce que vous dites. Je crois, Catherine, que pour casser le cercle de tout ce malheur et de ses conséquences qui font que vous pouvez pas voir vos petits-enfants auxquels vous tenez beaucoup, je pense que vous avez d'abord besoin d'aide. C'est-à-dire que je vois que vous vous débattez seul avec tous ces tourments. Et je pense que quand on est dans l'angoisse, qui est une des choses les plus difficiles à supporter, on a d'abord besoin d'une aide psychique. Ça me semble très important. Parce que je pense que si vous êtes mieux sur le plan psychique... Et souvent, quand on est aidé sur le plan psychique, comme c'est le cas dans les CMP dont parlait Mia tout à l'heure, eh bien, il y a aussi une aide sociale. Et je pense qu'il y a deux choses qui sont essentielles pour que vous puissiez commencer à reconstruire une vie digne de ce nom pour vous. Je pense que c'est comment, enfin, quand je dis digne de ce nom pour vous, avec ce qui a du sens dans votre vie, hein, revoir vos petits-enfants et avoir un logement, vous le dites. Je pense qu'il faut commencer par vous soigner vous, c'est-à-dire soigner cette souffrance morale qui vous habite. Ça vous aidera beaucoup à avoir de l'énergie pour trouver les moyens de vous héberger, de trouver une stabilité, d'avoir une stabilité dans votre travail. Et parce que si vous entrez dans ces circuits d'aide psychique, psychologique, il y a aussi une aide sociale qui est associée à ça, une assistante sociale qui vous aide aussi pour trouver un logement, pour régler les problèmes que vous pouvez avoir. Et moi, je crois qu'avant de vous engager dans la question de comment faire pour revoir mes petits-enfants, parce que ça a l'air verrouillé de ce côté-là, c'est commencer vraiment par prendre soin de vous et faire en sorte que vous soyez dans un état moral meilleur, déjà stable intérieurement, plus serein, à partir de quoi vous pourrez commencer à dénouer les problèmes de logement. Et je pense que si vous êtes mieux psychiquement, que vous êtes dans un logement stable, il y aura probablement des ouvertures du côté de votre famille.
Ma famille, le problème, vous savez, il me reste 6 ans. Une ou deux sœurs, enfin voilà, deux sœurs, bon, on va dire à côté de moi, mais on ne se voit plus. Et par contre, je suis très inquiète pour ma sœur aînée aussi, ça correspond, il y a 2 ans. Voilà, bon, alors, on a appris sa maladie, quoi. Et puis elle se bat aussi, et depuis, on ne l'a pas vue. Mmh. Donc là, parce que vous voyez, on n'est plus que 5 filles. 5 filles, on était 10 filles, 4 garçons. Et j'ai plus de frères. Oui. C'est pareil. C'était très vite. Vous savez, un chaque année. Et je n'ai pas pu assister à leur enterrement. Je m'en veux toujours. Il y a plein de choses, je m'en veux toujours.
Que de choses dans votre vie. Catherine, vous ne pouvez pas être bien et sans angoisse à travers tout ce que vous avez vécu. Enfin, vous le dites, ça remonte très loin. Je crois vraiment que l'urgence, c'est prendre soin de vous. D'ailleurs, un auditeur le dit, Stéphane, il dit « il va falloir que vous vous fassiez aider, vous ne tiendrez pas ». Et en effet, je crois que vous avez déjà eu affaire à de rudes malheurs. Si d'autres épreuves se présentent, vous pouvez être au plus mal. Donc je pense que là, il s'agit de prendre soin de vous et d'avoir l'aide psychologique et sociale dont vous avez besoin. Et quand on dit ça, vous savez, je ne vais pas du tout dans le sens des personnes qui vous prennent pour une folle, c'est pas ça du tout. Mais vous souffrez d'angoisse, ça c'est pas rien. Vous souffrez de phobie, vous dites que c'est pas des phobies ordinaires. Personne ne peut tenir durablement comme ça, ça affecte énormément. Donc je crois que là, il y a à rechercher une aide psychologique, morale, assortie d'une aide sociale comme on trouve quand on va vers cette aide psychique. Le plus simple, c'est vraiment, sont les centres médico-psychologiques, les CMP. Voilà, c'est sectorisé, hein. Ce sont des centres publics qui dépendent des hôpitaux. Bon, vous n'avez clairement pas besoin d'être hospitalisé, mais en revanche, c'est des centres qui ont des consultations de jour avec, comme nous le disait Mia, psychologue, psychiatre si vous avez besoin d'un traitement pour l'angoisse, si jamais dans certains moments, ou pour la déprime, si dans certains moments c'est trop difficile. Et dans ces structures-là, il y a aussi des assistantes sociales pour vous aider. Bon, c'est important que vous preniez soin de vous à ce moment de votre vie.
C'est vrai que l'année dernière, j'avais commencé tout ça sur... vous savez, lorsque j'étais chez ma sœur, parce qu'en fait, c'était dans la même rue.
Oui.
Et même mon médecin, tout ça. Bon, après, j'ai appris que mon médecin, justement, était mort du Covid. Subitement, j'ai pleuré 24 heures. Mmh. Mais ça, c'est sûr. Ça, je peux le dire, ça m'a choquée.
Bah oui.
La façon dont ma sœur me l'a dit, en plus, vous savez, « Oh, un tel, il est mort !» Et puis moi, voilà, là j'ai pleuré 24 heures. En fait, l'année dernière, oui, j'étais pareil. J'ai l'impression de ne pas avoir évolué depuis l'année dernière. Sauf, vous savez, matériellement, je vais mieux m'en sortir grâce
oui.
à...
Mais tant mieux si vous avez trouvé un travail. Mais vous savez, pour que vous puissiez, vous semblez apprécier ce travail, pour que vous puissiez travailler au long cours dans de bonnes conditions, je pense que c'est important que vous ayez un hébergement et que vous ayez une sérénité intérieure. Et Catherine, je m'inquiète pour vous quand j'entends le nombre de souffrances que vous avez traversées, le nombre de deuils, le nombre de séparations, le nombre de conflits, le nombre de souffrances morales. C'est normal qu'on ne puisse pas tenir dans la sérénité, la stabilité quand on a connu tout ça. Donc je pense que même si vous vous sentez mieux pour l'instant, ça me paraît vraiment important que vous ayez recours à cette aide psychologique pour vous consolider et vous guérir de certaines blessures. Vraiment. Oui. Vous voyez ?
D'accord.
Donc je pense que, alors vous allez trouver hein, ces centres médico-psychologiques, les médecins généralistes connaissent ça, ça me paraît important. Et encore une fois, c'est vraiment pas dans le domaine de la folie, parce qu'on croit toujours, enfin, parfois on pense que soutien psychologique c'est quand on est fou, mais c'est pas ça. C'est quand un être humain est tellement éprouvé que ses douleurs morales d'abord l'empêchent d'être heureux, parce qu'on n'est pas heureux avec des angoisses, des phobies, des dépressions, et aussi parce que un être humain n'a pas la stabilité intérieure qui lui permet de construire sa stabilité extérieure. Donc c'est à ce moment-là qu'une aide est vraiment nécessaire.
Oui.
Je vous conseille vraiment d'aller vers ça, et à mon avis, un cercle vertueux va s'enclencher à ce moment-là, à partir de cette aide.
Oui, j'ai arrêté l'année dernière, enfin, parce que je ne me voyais pas aller raconter, de dire « bon, ben, je ne suis pas bien parce qu'un tel m'a dit ça ». Il m'a dit ça comme ça, ou il m'a fait peur, ou des menaces, ou on me parle mal. J'ai tellement honte pour eux qu'en fait, j'ai même du mal. Enfin, vous voyez, moi, ça me semble tellement évident. Je sais pourquoi ça se fait pas, pourquoi il faut le faire à personne. Mais pourquoi je suis tombée que sur des... Vraiment sur des personnes dans mon entourage qui ignorent toutes ces bonnes manières, le tact et la diplomatie, quoi.
Ça, on ne saura jamais, parce que pour qu'on puisse nous guérir et évoluer, c'est difficile de poser les questions du côté de l'autre en se demandant pourquoi l'autre est comme ça. Je pense que la seule question, c'est comment vous pouvez vous consolider et vous guérir. Et bien sûr que vous pouvez confier toutes ces choses à des professionnels, parce qu'un professionnel, il ne va pas vous juger sur ce que vous vivez, sur des épisodes. Il va essayer de comprendre derrière ce que vous exprimez d'émotion ou derrière les épisodes que vous racontez, les chocs que vous avez connus, ce qui vous a traumatisé, les causes de toutes ces phobies, pour vous aider à la traiter. Et c'est ça qu'entend un professionnel. Il s'intéresse à vous, en fait, et pas tellement bon, pourquoi de la méchanceté des autres. Il va vraiment s'occuper de vous.
Parce que c'est vrai que j'en ai entendu. Hein, vous savez, quand j'y pense sur mon physique et tout... Je ne supporte plus qu'on me fasse le coup de me juger dès qu'on me voit, vous savez. En fait, on m'a enlevé beaucoup de chance, même à propos du travail.
Oui.
Parce que moi aussi, par exemple, j'ai voulu être pompier en habitant à la caserne. Et je sais que c'est dès le départ, j'ai été comme ça, vous voyez, oh ben non, parce qu'elle a des lunettes. Mais en fait, d'accord, je suis chétive. Mais je pense que j'aurais pu réussir quand même dans ce métier, j'aurais fait plein de choses quand même.
Oui, et puis aujourd'hui, vous pouvez aussi réussir des choses. Mais pour ça, je pense qu'il faut que vous alliez bien. Catherine, je vous propose vraiment d'essayer de le faire, vraiment, de vous tourner vers cette aide. N'hésitez pas à nous redonner des nouvelles ou voilà, à nous rappeler pour nous dire comment ça se passe. Mais je pense que c'est important que vous le fassiez.
Eh bien, je m'excuse parce que je voulais vous parler aussi. Hein. Alors, un dernier truc, peut-être qu'on s'est trop attardé. Parce que, en fait, l'essentiel, c'était justement, je voulais savoir, moi, si...
Oui.
Quelqu'un, par hasard, vous voyez, le 27 juillet, eh bien, si quelqu'un pouvait me louer quelque chose, 3 semaines sur 3, et, en toute confiance, parce que de toute façon, avant, je payais mes loyers, quoi. Je suis restée 21 ans, vous voyez. Donc, si je payais, il n'y a pas de problème.
En tout cas, Catherine, je redonne le numéro 09 69 39 10 11. Si certaines personnes qui vous écoutent ont envie de vous soutenir, de vous donner des conseils ou de vous suggérer des solutions, voilà, on laisse ça à leur libre appréciation. Donc, je transmets votre souhait, 09 69 39 10 11. Donc ça, on peut toujours avoir des réactions pour toutes sortes de soutiens. Ça, je laisse à l'appréciation des auditeurs. Et puis, je vous réencourage à nouveau, Catherine, à vraiment prendre soin de vous.
Je veux pas rester, vous voyez, c'est pour mes petits chats aussi, surtout. En fait, voilà, je demande, quelqu'un pouvait me proposer, voilà, vous savez, à 30 km à la ronde, moi, voilà, même, me proposer même une grange.
Le message est passé, Catherine, mais n'oubliez pas le principal, qui est vraiment de vous soigner, vous. Voilà, au sens de prendre soin de vous. Je vous dis au revoir, Catherine. Je vous souhaite beaucoup de courage.
Et je vous remercie beaucoup pour vos belles paroles, parce que vraiment, vous êtes super.
Merci à vous, Catherine. Merci. Et encore une fois, prenez soin de vous. Au revoir.
Sabine Calégari sur RTL. Parlons-nous. 22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Il est 23h32 sur RTL, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant. Il nous reste environ une demi-heure ensemble, alors n'hésitez pas à nous appeler pour nous poser votre question, quelle qu'elle soit, 09 69 39 10 11. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Je vous écoute. Frédéric, de quoi souhaitez-vous nous parler ?
Je vais faire une synthèse.
Oui.
J'ai donc 40 ans.
Oui.
J'ai subi, étant enfant, des violences physiques et psychologiques de ma mère.
Oui.
Jusqu'à l'âge de 14 ans, où un jour je lui ai dit « si tu m'en mets une, je te la renverrai ».
Oui.
Et finalement, c'est ce qui a pris le relais, ce sont des violences psychologiques, des violences douces, où j'avais l'impression je n'avais aucune estime de moi, je n'existais pas. Je me sentais rejeté.
Elle vous injuriait, elle vous humiliait ?
Oui, sale bête.
Oula.
Voilà, j'étais une sale bête. Donc j'ai grandi dans cet environnement et j'ai une fille qui va sur ses 17 ans.
Et dans cet environnement, votre père était présent ?
Oui, il était absent en fait. Il était présent physiquement mais absent, c'est-à-dire il n'était pas dans son rôle de père, de protecteur.
De protecteur.
De se mettre entre ma mère et moi et de dire à ma mère tu ne le toucheras jamais. Tu ne le toucheras plus jamais.
Vous pensez qu'il savait ce qui se passait ?
Oui, il savait.
Vous avez eu des signes de ça, vous ?
Oui, tout à fait, puisqu'il y a 2 ans, pour être précis, c'était une date un peu clé. C'était le 25 décembre 2019, 2018, je ne sais plus. Bon, mais c'était en tout cas le 25 décembre. J'ai reparlé de ces violences avec ma mère, où je lui ai dit « j'attends ta demande de pardon
oui.
et ça t'aiderait aussi mon père ». Donc le ton est monté et mon père a dit « bon, on s'arrête, on discute d'autre chose ».
Donc il a fui.
Oui, il a fui.
Et cette fuite vous a donné l'idée que dans votre enfance, c'était déjà une fuite, c'était la même position.
C'est ça, c'était une maison avec un terrain, j'allais dans, quand je me faisais taper, ou que je subissais ces violences physiques, psychologiques, l'un ou l'autre, ou les deux, j'allais dans mon refuge, dans son coin du jardin, je m'asseyais, et puis je pleurais, je culpabilisais, je me disais, c'est ta faute, hein. Oui. T'avais qu'à mettre le couteau et la fourchette du bon côté de l'assiette.
Ça, peut-être, ça vaut la peine qu'on s'arrête un instant sur ce que vous dites. Effectivement, c'est hélas, ce que se font les enfants. Parce que pour eux, comme la parole, surtout un enfant petit, bon, après, la faculté de juger se développe, mais un enfant petit, pour lui, ses parents, ce sont comme des dieux. Donc, ils ont une forme de toute-puissance, ils ne peuvent pas se tromper, leur parole est d'or. Et quand un parent dit qu'un enfant est moins que rien, surtout sous toutes sortes de formes ou le frappe, l'enfant retourne ça contre lui en se disant qu'il a mérité les châtiments ou qu'effectivement, il a mérité les humiliations verbales. Donc c'est bien la culpabilité dont vous parlez qui est extrêmement douloureuse et destructrice.
C'est ça, parce oui. que dans, quand du coup ma vie c'est, quand ma, j'ai fait ma vie, eh ben j'ai grandi avec ce sentiment de d'impuissance, de ne pas être aimé.
Et oui, de soumission aussi, c'est ce que vous entendez par impuissance. Oui.
Donc je m'oubliais et je n'avais pas trop d'amis.
Et, vous aviez des frères et sœurs, Frédéric, ou vous étiez enfant unique?
Non, je suis le troisième enfant et j'ai un frère qui a une trisomie 21, c'est l'aîné, qui est très... un handicap assez prononcé car j'ai reconnu différentes personnes de par l'association où étaient mes parents. Il y avait plusieurs types d'enfants qui avaient la trisomie 21. Oui. Certains s'exprimaient et étaient autonomes. Mon frère, ce n'était pas le cas. Il ne prononce pas un mot. Et ma sœur, elle est au milieu et elle a pris le relais. Dans l'adolescence, elle a pris le relais de ma mère quant aux violences psychologiques, les violences douces. J'ai été privé de, quand elle retrouvait des amis, de rester de visu dans la maison. Il fallait que j'aille dans ma chambre, j'avais peur d'en sortir, ce genre de choses.
Donc, toute votre enfance n'a été qu'une maltraitance?
Pas tout, mais un peu, beaucoup. Ah.
Et vous apprêtiez à nous parler donc de votre fille de 17 ans, donc vous faisiez un saut dans votre vie d'adulte.
Oui, donc j'ai eu ma fille et j'ai surtout qui a été une bénédiction parce qu'on ce que on pourrait comprendre, c'est que la première femme de votre vie, votre mère. Elle ne vous montre, elle vous montre qu'elle vous aime pas. Vous partez avec un côté négatif des femmes. Et c'est pour moi, je rêvais d'avoir un enfant, bien entendu, mais qui plus est une fille. Je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à aimer si ça avait été un garçon. Ce qui est assez paradoxal, mais je voulais une fille et j'ai été heureux à l'échographie quand on m'a dit que c'était une fille.
Et déjà, vous avez pu aimer la mère de votre fille.
J'ai pu aimer la mère.
De votre fille, malgré ce qui vous est arrivé dans votre histoire.
Bah oui, je l'aimais, oui. J'avais, mais j'ai eu le premier amour, j'avais 19 ans, donc et je ne comprenais pas d'ailleurs comment on pouvait qu'est-ce qu'on pouvait trouver en moi de bien, m'apprécier, etc. Donc le premier amour de ma vie, c'est elle qui est venue vers moi.
Oui.
Et après, donc la deuxième compagne que j'ai eue, c'était la mère de ma fille. Et malheureusement, elle avait aussi ces difficultés qu'elle avait connues dans l'enfance.
Elle était maltraitée, elle aussi?
Oui. Enfin, je sais pas, mais il y avait de la violence, en tout cas entre ses parents. Son père, qui était gendarme, donnait des coups à sa mère et est parti avec donc a été dans l'adultère et finalement quitté sa famille.
Oui.
Et j'ai un peu repris son rôle puisque je suis devenu gendarme. Et j'ai aussi été l'auteur de violences conjugales.
Comment ça a commencé, les violences conjugales?
J'ai commis des violences conjugales sur la mère de ma fille.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, Frédéric?
La première fois, en fait,
oui.
C'est elle qui m'a mis une gifle. Bon, c'est disputé, elle m'a mis une gifle. Et je pense peut-être que c'est à ce moment-là que ça a déclenché chez moi. C'est les violences que j'avais subies d'une mère, etc.
C'était l'insupportable par excellence. Vous n'avez pas pu supporter la gifle.
C'est ça. Et peut-être, attention, s'il n'y avait pas eu la gifle, ça se serait peut-être produit, les violences que j'ai commises. Ça n'explique de toute façon les violences que j'ai commises, les violences que j'ai subies, n'excuse pas la faute que j'ai en tant que co-auteur de violences.
Le fait de prendre vos responsabilités dans cette violence, ça vous honore. Mais il est certain que votre histoire détermine ce qui se passe. Enfin, vous, et à la fois de votre côté et du côté de la mère de votre fille. Bien sûr que ça vous honore de ne pas chercher des excuses, comme vous dites, et de vous déresponsabiliser de votre faute, mais enfin, vous avez l'un et l'autre une histoire avec la violence. C'est comme si, pour votre inconscient, la violence était quelque chose de normal, pas pour votre raison. Vous savez bien que c'est hors la loi, mais l'inconscient, c'est pas que c'est normal, c'est qu'il a une certaine familiarité avec la violence. Donc pour lui, quand les choses se traitent par la violence, c'est quelque chose qui est déjà connu. C'est comme Freud appelait ça un frayage, c'est comme une voie qui est déjà ouverte. Donc bon, il ne s'agit pas ni d'excuser ni d'absoudre, on n'est pas là pour ça. Mais il est certain que ce qui s'est passé dans votre histoire, ça joue son rôle dans les violences dont vous parlez.
C'est effectivement, on devient, attention au mot que je vais dire, on devient presque ami avec la violence, parce que c'est le seul moyen qu'on a, qu'on connaît et qu'on a finalement...
familière.
Oui. Voilà. C'est le seul moyen de s'exprimer, c'est parce qu'on n'a pas les mots et que c'est tellement ça manque tellement de ne pas avoir les mots, les paroles pour tout simplement s'expliquer, trouver des solutions, que c'est les gestes qui prennent le pas.
Je trouve votre analyse très juste et très fine de ce qu'on appelle le passage à l'acte en psychanalyse. Ce que vous dites, c'est que vous êtes passé directement des émotions qui vous animaient à ce moment-là, donc la révolte face à la gifle ou la colère face à elle, vous êtes passé directement de l'émotion à l'acte. Au fond, ce que vous dites, c'est que la pensée a été court-circuitée parce que les voies de la pensée n'ont pas été ouvertes, éduquées, exercées dans votre histoire, que vous n'avez pas appris ce qui est vraiment la base de l'éducation d'un enfant, c'est qu'on lui apprend à traiter par la parole, par la pensée. D'abord, il pense. Quand une émotion le submerge, il pense et il parle. Vous, ces voies-là n'ont pas été ouvertes du tout par l'éducation. On va supposer même qu'on puisse parler d'éducation tellement vous avez souffert. Donc ça ouvre la voie au passage à l'acte. C'est qu'il y a un passage direct de l'émotion qui vous submerge au geste.
Mais je vous coupe, c'est tout à fait logique que j'ai une bonne analyse, car voyez-vous, je donne des cours à Boris Cyrulnik, je ne sais pas si vous le connaissez.
Oui. Pardon, j'ai pas entendu vous donner des cours.
Ouais, j'ai tout appris à Boris Cyrulnik.
Oui.
Voilà, c'est pour ça que j'ai une très bonne...
Vous l'avez lu ou c'est lui qui vous suit?
Non, c'est moi qui ai tout appris, en fait.
Oui, voilà. C'est-à-dire? Quel lien avez-vous avec lui?
Je lui ai tout appris, je suis son maître, en fait, si vous voulez, dans la psychanalyse, la résilience, etc. C'est moi qui ai tout appris. Donc, trêve de plaisanterie. Oui. Voilà comment quelle a été ma vie jusqu'à un jour où j'ai eu un grave accident. C'était en 2017, le jour de l'anniversaire de ma mère chez elle. Je faisais du jardinage, je coupais la vigne vierge sous les tuiles, je suis tombé du haut de l'échelle. Et là, j'ai été héliporté en neurochirurgie à Toulouse, où j'ai subi on appelle ça une craniectomie décompressive, c'est-à-dire on vous enlève une partie osseuse du crâne, qu'on congèle. Et j'ai passé un an entre tous les services, j'ai été hospitalisé pendant un an. Et depuis, alors je ne sais pas s'il y a une relation avec cette date précise, le 10 juin, donc qui est l'anniversaire, le jour de l'anniversaire de ma mère. Un énergéticien m'a dit que, en fait, inconsciemment, j'avais voulu mettre fin à mes jours ce jour précis pour passer un message à ma mère lui disant « tu as eu raison de moi ». Et donc, voilà. Donc ça relève un petit peu...
Qu'est-ce que vous en pensez de cette interprétation ? Comment vous la ressentez ?
Effectivement, quand il me l'a dit, c'est un peu ce que j'attendais parce que moi-même, je me disais « ce n'est pas un hasard si j'ai eu cet accident chez elle ». Le jour de son anniversaire. Mais je n'arrivais pas à expliquer pourquoi, mais je ressentais, j'avais cette intuition, je ressentais en moi que c'était pas un hasard.
Oui, il est clair que la relation est frappante entre sa date d'anniversaire et votre accident. En revanche, ce qui peut poser question, enfin, sauf si vous, l'interprétation vous convient, ce qui peut poser question, c'est la manière dont on l'interprète, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Lui dire « tu as eu raison de moi », bon, c'est une des interprétations possibles. Il y en a d'autres. Il y a une autre interprétation qui est de la punir par votre disparition. Ça arrive aussi que parfois, pour manifester la souffrance extrême envers que nous inflige quelqu'un, nous lui infligions la plus extrême des épreuves, qui est notre propre mort. Donc, c'est une autre interprétation possible. Bon, en tout cas, l'important, c'est celle qui vous parle à vous, celle qui fait sens pour vous.
Ben, j'en sais rien, alors. C'est peut-être aussi pour la punir, je l'ignore.
Est-ce qu'en fait, cette interprétation... Bon, je vais vous laisser poursuivre, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais « tu as eu raison de moi », peut-être que c'est l'interprétation juste, mais elle suppose que... vous perdiez la bataille d'une certaine manière et que vous vous soumettiez. Je ne suis pas sûre de ça. Je pense que je suis sûre de rien d'ailleurs, mais je pense qu'il y a une autre hypothèse qui est qu'il ne s'agissait pas tant de vous soumettre et d'assumer d'avoir perdu la bataille, peut-être d'éventuellement renverser quelque chose et que ce soit vous qui preniez la main sur la situation, même d'une façon tragique. Alors, était-ce pour la punir ? Était-ce pour témoigner de vos souffrances à l'extérieur, pour appeler à l'aide ? Je ne sais pas. En tout cas, il me semble qu'il y a plusieurs interprétations possibles.
En tout cas, l'amour n'a pas voulu de moi ce jour-là.
Et ça, il est clair que vous avez vécu. Donc, il faut supposer que dans le rapport de force qui s'est produit dans votre inconscient, les choses ont basculé du côté de la vie et de l'envie de vivre.
Et paradoxalement, bien évidemment, j'ai été pris en charge par des professeurs, un professeur en neurochirurgie, et puis tout le personnel médical à qui je les remercierai jamais assez, bien entendu. Et puis je vais peut-être parler de choses qui échappent aux gens ou que les gens sont dans le déni, refusent. Ce sont les croyances, chacun ses croyances, mais j'ai eu aussi pour moi une protection, parce que quand j'ai passé des examens plus tard en neurologie, etc., le personnel soignant qui me faisait par exemple un électroencéphalogramme, il me disait, vous savez, au vu de ce que vous avez eu, tout le monde ne s'en sort pas comme vous. Je lui dis, je peux bien vous croire. Sans en être vraiment conscient, mais bon. Et depuis cet accident, là par contre, je dis d'un côté que c'est un mal pour un bien, parce que ça m'a fait changer, mon comportement a changé. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je m'apprécie, je m'aime. Quand je me regarde, ça paraît peut-être égocentrique, mais quand je me regarde dans le miroir, je me dis je m'aime bien. Alors que c'était impossible avant cet accident de me le dire ça.
Ce que vous dites à l'instant, Frédéric, ça m'inspire une autre interprétation possible de votre accident. Au fond, ce serait comme une sorte d'ordalie. Vous savez, c'est ce qu'on trouve dans la littérature. L'ordalie, c'est l'épreuve par laquelle nous remettons notre sort au destin avec un grand D ou à une instance suprême. C'est comme relancer les dés de sa vie. Et en quelque sorte, c'est peut-être ce qu'on peut dire, c'est que cet accident, c'est comme si vous aviez mis en jeu votre propre vie pour pouvoir éprouver sa valeur. Vous auriez pu en mourir de cet accident, et là, votre vie se serait perdue. Et du fait qu'elle ait survécu à ce qui est arrivé sous la forme d'un miracle, n'est-ce pas une manière d'avoir mis en jeu votre vie et d'éprouver la valeur de cette vie, puisqu'elle est toujours présente au prix d'un miracle ?
Mais je ne comprends pas pourquoi. J'ai été protégé ou je ne sais pas si c'est mon âme ou j'en sais rien, comment ça se passe, je ne suis même pas baptisé pour vous dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de personnes qui l'auraient mérité plus que moi. Et sachant que, au vu des pensées que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire je ne veux plus vivre, je suis trop en souffrance. Et je suis en équilibre sur un fil entre le choix de vivre et de mourir. J'y pense tout le temps. Et ce, depuis la fin de mon hospitalisation qui remonte à 2018. Donc ça fait depuis 2018 que je lutte et que j'y pense souvent à mettre fin à mes jours.
Mais en vous, Frédéric, il y a deux tendances qui sont très puissantes. Il y a ce qui est demeuré intact. Il y a des choses qui sont demeurées miraculeusement intactes en vous. D'abord, la capacité à aimer le féminin. Vous avez aimé la mère de votre fille, même si des choses ont mal tourné. Vous aimez votre fille qui va avoir 17 ans, vous nous l'avez dit. Ça fait partie des choses intactes, votre capacité à aimer. Il y a votre vie aussi qui est intacte. Après cet accident, vous auriez pu être affreusement handicapé ou n'être plus de ce monde. Donc il y a une part de vous qui est miraculeusement intacte à travers tout ce que vous traversez, liée à des...
Pardon ? J'ai juste perdu l'essence du goût et de l'odorat.
Oui. Donc vous avez des traces et une partie de votre corps est intègre, est intacte. Ça, je pense, c'est du côté des puissances vitales qui sont très importantes chez vous au regard de votre histoire. Et il y a une autre part de vous, celle qui est tentée par la sérénité ultime ou la paix ultime, qui a bout de souffrance probablement, et qui peut être tentée par ce que Freud appelle le retour à l'inanimé. Parce que parfois, quand on pense à mourir, c'est pas forcément qu'on veut mourir, mais qu'on veut enfin trouver une issue et trouver enfin une forme d'apaisement, enfin que les souffrances s'arrêtent.
Arrêter de souffrir.
Oui, c'est ça. Et là, il y a ces deux puissances en vous, les puissances vitales du côté de ce qui est intact en vous et les forces, enfin, ce qui est la tendance qui a bout de souffrance et qui voudrait qu'il y ait une issue et que ça s'arrête. Je pense que dans ce combat-là, je pense que c'est vraiment le moment de chercher de l'aide. Je pense que c'est le moment pour commencer un travail sur vous. D'abord, vous êtes conscient de beaucoup de choses dans votre histoire. Vous faites vous-même des liens. Enfin, vous savez ce que c'est que la répétition, vous savez ce que c'est que le passage à l'acte, vous savez ce que c'est que la responsabilité. Donc, vous avez déjà réfléchi à beaucoup de choses. Je pense que maintenant, c'est l'enjeu d'un travail sur vous, ce serait de donner un appui à vos forces vitales, à ce qui en vous est intact et ce qui veut vivre, puisque vous avez survécu à ce premier accident.
Ce que je veux, moi aujourd'hui, en fait, là où je me sens bien, c'est quand je parle avec des gens qui ont des soucis et que je sais trouver les mots pour les réconforter. Ça paraît bête.
Mais pas du tout, c'était peut-être pas tant une plaisanterie que ça, ce que vous disiez tout à l'heure à propos d'être le maître de Cyrulnik. C'est peut-être un désir chez vous d'aider les autres.
Moi, je crois qu'il est plus pour moi. Mais bon, bref.
En tout cas, il y avait quelque chose dans votre phrase. C'était pas tout à fait en l'air.
Mais là où je me sens, du coup, exister, être quelqu'un, c'est quand je peux... par exemple, je voyais une fois une dame dans un bar qui font des concerts, etc. Bref, mmh. Elle regardait dans le vide. Et je me suis arrêté à sa hauteur. Je lui ai dit, vous pensez trop. Et elle m'a dit, non, plus avant, oui, mais maintenant, non. Je lui ai dit, si, vous pensez toujours trop. Et du coup, ça m'a permis d'engager une discussion avec elle. Et à la fin de la discussion, je l'ai prise dans mes bras.
Oui, et à la fin de la discussion ?
Je l'ai prise dans mes bras.
Mmh.
Et voilà, en fait, si j'ai pu lui apporter quelque chose, en fait, elle ignore, mais elle m'a apporté encore plus en retour.
Oui, votre empathie vous guérit aussi. L'aide que vous apportez aux autres vous guérit aussi. Frédéric, vous avez déjà pensé à professionnaliser ça? Bon, il existe de multiples façons de le faire. Vous avez déjà pensé à vous former, par exemple, pour donner un cadre à ce désir d'aide, quel qu'il soit, hein, face à plein de choses existent. Pas forcément du côté psy, d'ailleurs. Mais aussi du côté psy, est-ce que vous avez pensé à quelque chose comme ça?
En fait, avant même mon accident, pas directement côté psy, parce que, par contre, j'ignore votre statut professionnel, mais je ne suis pas copain avec des psychiatres.
Je ne suis pas psychiatre, je suis psychanalyste.
Et voilà. Et donc du coup, ok. Et je suis pas copain avec les psychiatres ou des personnes quand vous leur dites, enfin, ou des professionnels en psychologie quand vous leur dites ce que je vous exprime, qui vous disent oui, enfin, vous avez une fille, pensez à elle. C'est terrible quand ils me disent ça. Ça fait exactement l'effet contraire.
Mais bien sûr, ouais. Parce qu'au fond. Vous, toute votre enfance, vous avez été nié comme sujet. On vous a traité comme un objet rebut, d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, quand vous vous exprimez comme sujet, que vous parlez de vos souffrances et de ce qui vous est arrivé, le moins qu'on puisse faire, c'est de l'entendre. Et de ne pas dire, ah ben vous, vous ne comptez pas, c'est votre fille qui compte. C'est encore une façon de vous nier comme sujet, de vous traiter comme objet. Donc je comprends que ce soit tout à fait insupportable pour vous.
Ben, merci de le dire. Merci de le dire. Vous êtes peut-être une des premières à me le dire. Ouais, vous êtes la seule à me l'avoir dit ça. Et donc j'y avais pensé avant mon accident, ce que vous me demandiez. Mais donc je suis passionné par la musique parce que quand je joue du piano, c'est les seuls moments où je me sens libre. Je me sens léger. Et j'ai la vérité dans les notes, ça ment pas, c'est la vérité. Et donc du coup, je m'étais renseigné pour faire de la musicothérapie. Et du coup, parce
quelle belle
que moi,
idée, quelle belle idée.
J'ai été soigné par, j'ai connu un petit peu de résilience de par la musique voilà.
Frédéric, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage très très fort. Je suis frappée par toutes les réflexions que vous développez, par la conscience que vous avez. Et vraiment, je suis certaine que vous pourrez aider merveilleusement parce que ce que vous avez vécu doit vous donner une empathie très particulière et une intuition très particulière de la souffrance de l'autre.
J'arrête pas de pleurer.
Oui, oui. Frédéric, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles, vraiment. Et prenez soin de vous en prenant soin des autres. Je pense que c'est votre désir aujourd'hui.
D'accord. Je te dis juste à dire quelque chose de très important par rapport à. J'ai dit que j'avais été gendarme, que j'avais commis des violences. Je voulais juste, comme il y a des auditeurs, dire que attention, ne faites pas l'amalgame avec tous les gendarmes ou les policiers. Ça, il faut juste savoir que c'est juste le reflet de la société. Malheureusement, voilà, il y a des menteurs, des voleurs, mais aussi des gens très bien. Et la majorité des gens sont dans ce métier des gens très bien.
Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir d'ajouter ce discours de responsabilité. C'est la fin de nos échanges pour ce soir. Je vous retrouve demain en direct dès 22h. Le numéro de Parlons-nous, vous le connaissez, 09 69 39 10 11. C'est toujours vous qui choisissez vos sujets. On a eu des sujets très forts ce soir et nous vous accompagnons dans vos sentiments, dans votre réflexion. Je vous souhaite une très belle nuit.